Le camp de base.
Le camp de base.
Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, Rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. N'avez-vous jamais pensé à vous investir dans les groupes de la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins de montagne ? La FFCAM, qu'on appelait anciennement le Club alpin français, existe depuis le 2 avril 1874 et c'est l'une des plus anciennes associations consacrées à la pratique et à la connaissance de la montagne. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Létienne et François Turpin. Le premier est guide de haute montagne et investi dans la formation des participants du Gavi 74, groupe alpiniste vers l'initiateur. Le deuxième est engagé à la FFCAM et participant du Gavi 74 numéro 3. Ensemble, on discute de cette formation de 2 ans à la montagne et de pourquoi on grimpe, finalement, vers les sommets. Se former à l'alpinisme au Gavi 74, c'est l'épisode 53 du camp de base et ça commence dès maintenant. Bonne écoute! Bonjour Grégoire!
Bonjour Émilie!
Bonjour François!
Salut Émilie!
Et merci beaucoup d'être les invités du camp de base aujourd'hui. Alors on va parler du Gavi, même si toi Grégoire, on t'avait déjà eu dans un épisode à l'occasion des rencontres ciné-montagne pour présenter le film Pizzalpes. Un tout petit aparté, quelle a été la retombée de ce film presque 2 ans après les dernières rencontres ciné-montagne ?
Et bah du coup, on a présenté le film dans d'autres festivals de films de montagne. Et les retombées, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de retombées. À part le fait que ça a donné envie à d'autres personnes de partir faire des voyages qui considèrent l'aspect planétaire, on va dire. Donc des voyages low energy et du coup ça fait quand même plaisir parce que le but du film c'était quand même de donner envie aux autres de partir.
Ok, bah, trop bien. On rappelle, c'est le film Pizzalpes et on mettra dans la description du lien du podcast toutes les informations pour retrouver l'épisode. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler du Gavi. Qu'est-ce que c'est le Gavi ?
Alors le Gavi, ça va être le groupe alpinisme vers l'initiateur. Et donc, c'est une proposition qui a été faite par le comité Haute-Savoie, comité 74 de la FFCAM, du CAF, anciennement du CAF, ou Club Alpin Français. Et donc, ils avaient fait une sélection. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient retrouvés un peu sur le tas à la fin de cette sélection. Et ils avaient trouvé ça dommage de voir toutes ces bonnes âmes motivées. Et à la suite de ça, ils avaient décidé de créer des groupes supplémentaires, dont ce Gavi, qui permet en fait à des gens de clubs investis de se former pour ensuite, au bout de 2 ans, être autonome en montagne et ensuite aussi de passer l'initiateur alpinisme pour ensuite devenir d'autres personnes qui emmèneront des débutants en haute montagne.
D'ailleurs, ce groupe est rendu possible par l'intervention de plusieurs personnes. D'abord, les personnes du comité départemental Haute-Savoie de la FFCAM qui nous soutiennent et qui ont permis la création de ce groupe, et le coordinateur de notre groupe, Pierre Olivier, qui suit toute cette formation, sa gestion, etc. Donc on remercie toutes ces personnes bien chaleureusement pour le suivi de ce groupe.
Donc toi Grégoire, tu es l'un des deux guides qui encadre le Gavi. Qui est ton partenaire ?
Donc on est 2 guides à se répartir, donc il y a 10 journées qui par an. Et le Gavi, c'est pendant 2 ans, donc il y a 20 journées à se répartir avec l'autre guide. Et l'autre guide, donc, s'appelle Benjamin Soufflot. Et pour l'anecdote, c'est un copain de promotion, de la même promo que moi, quand on est sorti de l'école des guides.
Densa,
C'est ça.
pourquoi est-ce que vous avez eu envie justement de vous investir dans ce Gavi? Qu'est-ce qui est peut-être intéressant en tant que guide dans cette mission?
Je me prononcerai pas pour Benjamin, mais quand j'étais jeune, j'ai fait partie d'équipes. Alors c'était de l'autre côté, du côté de la FFME, Fédération Française de Montagne et d'Escalade. Et en fait, j'ai pu faire de la montagne, j'ai pu apprendre la montagne en étant dans une équipe, jeune. Et en gros, je me suis un peu toujours senti redevable d'encadrer des groupes et d'encadrer ces jeunes pour qu'ils accèdent à l'apprentissage de la haute montagne. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et accessoirement aussi, c'est pour varier aussi un peu le métier de guide, à savoir aussi faire de la formation. C'est un autre aspect du métier de guide. Pour l'INSEE, on est des enseignants de disciplines sportives, pour information. Et du coup, ça fait partie de notre travail d'enseigner la haute montagne à d'autres personnes.
François, toi, t'es celui qui m'a contacté sur Instagram dans le cadre du coup de cette émission du Camp de base, mais t'es aussi participant à ce Gavi. C'est quoi ta pratique de la montagne en dehors de ce groupe?
Ouais, alors je pense qu'on est deux à t'avoir contacté en parallèle. Il y a moi et Steven, un autre participant, sans vraiment se concerter. Moi, ma pratique de la montagne, en fait, c'est je suis arrivé dans la région pour des raisons professionnelles, comme beaucoup, je pense, en 2020, tout juste après le Covid. Et il s'avère que j'avais plusieurs copains dans la région qui étaient vraiment à fond orientés montagne, donc alpinisme, ski, escalade, toutes les disciplines que tu peux imaginer. Je suis sorti avec eux l'été, j'ai commencé à apprendre avec eux, et il s'avère que deux d'entre eux étaient dans le Gavi 1, donc Vincent Casanova et Marion Grosjean, qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier dans toutes ces disciplines-là, qui m'ont montré l'intérêt de s'impliquer au sein d'un club alpin. Alors déjà de s'inscrire et d'apprendre avec les initiateurs du club alpin, qui sont des encadrants bénévoles, donc ils prennent de leur temps pour se former, pour être suffisamment autonomes et compétents pour ensuite initier d'autres personnes à leur pratique. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait la montagne, que je m'y suis mis, et depuis j'ai une pratique régulière d'escalade, de ski de randonnée, et d'alpinisme, avec des disciplines qui me tiennent particulièrement à cœur, et puis de plus en plus la randonnée et le trail. Voilà.
Et comment est-ce que tu as eu envie de... Alors j'ai compris que c'était important de s'impliquer hein,
Ouais.
dans l'équipe alpin français. Pourquoi, au-delà de la formation, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être au Gavi?
Alors en fait, alors moi dans mon métier, donc je fais pas mal de recherches en géologie. Je suis passé à travers un doctorat et des postdocs dans différentes universités. Ça m'a systématiquement conduit à faire de l'enseignement et de l'encadrement, notamment des stages de master en particulier, ou des sorties terrain, qui sont une part importante du métier de géologue. Donc amener des gens dans la nature, leur apprendre à observer, les former, transmettre les connaissances, c'est un aspect qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps. Et en fait, c'est cet environnement montagnard et ces disciplines, elles me font vraiment me sentir bien. J'ai juste envie de partager ça avec des gens, et je me sens un petit peu comme Greg. Je me sens aussi un petit peu redevable de tout le temps qu'on m'a offert pour atteindre cette autonomie et cette aisance dans ma pratique. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir besoin de le rendre d'une manière ou d'une autre. Pas que ce soit que je considère que ce soit un devoir, c'est un vrai plaisir, mais il me semble que c'est aussi important, quand on a bénéficié du temps d'initiateur, de pouvoir le rendre. Et l'idée du Gavi m'a assez vite séduite avec cette formation de qualité qui est fournie par deux guides de haute montagne sur un groupe qui est éprouvé depuis plusieurs promotions. Voilà, c'était vraiment l'occasion de, un, d'avoir une bonne formation, deux, de rencontrer des gens qui ont mon expérience ou mon niveau de pratique et les mêmes affinités que moi pour l'encadrement et pour ce milieu montagnard. Et donc en fait, tous ces éléments-là ont fait que voilà, c'était vraiment
le meilleur moyen pour moi d'atteindre l'autonomie que je cherche vraiment et de m'amener vers le diplôme d'initiateur.
Grégoire, est-ce qu'il y a une peut-être un niveau requis pour rentrer justement dans ce groupe ?
Alors, l'idée du Gavi, c'est pas de former des gens qui n'y connaissent rien à la base. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est quand même un des aspects qu'il faut prendre en compte. L'idée, c'est qu'à la fin des 2 ans, ça soit des gens qui soient capables d'emmener du monde en montagne. Et en soi, faut bien faire la différence entre être autonome en montagne et emmener du monde. Et du coup, si en 2 ans, on peut pas prendre des débutants et les amener à l'encadrement, enfin, c'est beaucoup trop court. Donc, en soi, on demande déjà une expérience. On ne demande pas du tout un niveau stratosphérique, je pense. Mais par contre, on demande de l'expérience, c'est-à-dire que ça soit des gens en fait qui savent déjà, qui ont déjà grimpé, qui ont déjà fait des courses d'alpinisme faciles, qui ont déjà pratiqué un peu le ski de rando et la cascade. C'est pas 2 choses qu'on regarde particulièrement, mais voilà. Et puis, qui soient aussi investis dans les clubs. Parce qu'on sait que c'est quand même, enfin, ce groupe-là, il n'y a que 6 places en Haute-Savoie. On sait qu'il y a de la demande. Et voilà, en fait, l'idée, c'est pour les clubs, pour la FFCAM, c'est d'avoir à la fin des gens qui emmènent d'autres personnes.
Tu parlais tout à l'heure d'un groupe mixte. Combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes dans ce groupe du Gavi?
Alors, cette année, pour le Gavi 3, la troisième promotion n'est pas à la parité. Donc, on a deux filles et 4 garçons. Après, en termes d'âge, ça va entre 25 et 35 ans. En gros, on cherche ce type de profil. Après, bah, voilà, il y a des exceptions. On regarde pas si ça fait 36 ans ou 37 ans. C'est pas non plus dramatique. Et l'idée, ouais, donc c'est un groupe mixte, donc c'est pas un groupe unisexe, que ce soit garçon ou que ce soit fille. Et l'idée du Gavi, c'est d'essayer de profiter de la mixité pour que ça apporte un peu à tout le monde. L'intérêt, c'est par exemple, enfin, on a les garçons, ils ont leurs faiblesses et leurs avantages. Et du côté féminin, c'est la même chose. Et après, l'intérêt aussi, c'est que si à la fin, ça va être des gens qui vont encadrer d'autres personnes, le fait d'avoir été dans un groupe mixte, on a pu voir les réactions, les comportements de chacun, des deux côtés, enfin, des deux sexes. Et du coup, je pense qu'on apprend aussi plus comme ça.
Alors, c'est une question que j'avais envie de te poser, peut-être qui révoltera hein, ceux et celles qui nous écoutent, mais c'est quoi la différence dans la pratique d'un homme et d'une femme, justement, en montagne? Qu'est-ce que
Alors,
toi, tu as pu observer
En tout cas, dans les groupes, enfin, moi, de ce que j'observe en tant que guide, ça fera peut-être bondir, mais au moins, ça fera des commentaires pour le podcast. Globalement, les garçons en général, après, évidemment, c'est une règle et il y a des exceptions, donc attention à ne pas généraliser non plus. Mais les garçons, souvent, ça part en, disons que ça va peut-être un peu écouter d'une oreille. Mais pas des deux oreilles, ça va y aller un peu tambour battant sans trop réfléchir. J'exagère, mais c'est un peu ça. Alors que du côté féminin, ça va hyper bien écouter. Mais par contre, quand il va falloir y aller, ça va pas croire en soi et ça veut dire j'en suis pas capable. Donc c'est un peu ça les deux comportements. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'avoir la mixité parce que après quand on encadre. Et bah souvent en fait j'exagère mais le garçon va vouloir y aller avec le comment dire la testostérone masculine qui influe et de l'autre côté féminin en fait ça va être beaucoup sur la retenue donc ça a des avantages et des inconvénients dans les deux sens.
Et justement moi la question que je me pose c'est que est-ce que à l'ENSA vous vous êtes préparé à avoir des clients qu'ils soient masculins ou féminins?
Alors moi, attention, moi j'ai été formé, j'ai eu le diplôme il y a 6 ans, donc depuis ça a peut-être évolué. On n'avait pas de cours particulier là-dessus. Après, quand on était avec un prof, chaque semaine on est avec un prof différent, donc à chaque prof sa personnalité et aussi chaque prof apporte ses spécificités, mais ça m'avait pas marqué, on va dire. Après, ce qui se passe aussi, c'est que on a des clients qui nous ressemblent, disait un prof de l'ENSA, juste type. Et voilà, en fait, comme il y a maintenant à peu près 10% de filles dans les promos, et bah en fait, ces filles peuvent aussi, vont peut-être avoir plus de clientes féminines parce que les nanas, en fait, se sentiront peut-être plus compris en prenant une guide femme. Après, ça, c'est ma théorie à vérifier en pratique. Ça dépend après aussi de l'appréciation de chaque guide. Et je pense que dans la jeune génération, dans les générations qui se forment, il y a quand même, ça prend quand même plus en compte les particularités des deux sexes.
On parlait de pratique. Est-ce que vous faites de la contemplation de la nature au Gavi ou c'est pas trop l'idée? Peut-être François, de ton expérience de participant?
Alors en fait, il s'avère qu'on est pour atteindre la qualification qui nous permet d'encadrer au sein des clubs alpins, on va avoir l'obligation d'accéder à un certain niveau technique et d'autonomie dans différentes disciplines. Et on a des formations en plus à passer, en particulier sur la formation avalanche. Donc pour les connaisseurs des formations FFCAM qui écoutent ton podcast, c'est le NA2 qui est obligatoire, le neige avalanche de niveau 2. On va avoir aussi cartographie et orientation de niveau 2. Donc l'idée, c'est d'avoir cette capacité à observer le terrain, à prendre la décision en fonction des observations sur le terrain, en fonction de la météo des jours, des semaines, des mois précédents, peu importe. Donc on a tout cet aspect qui est pris en compte au sein de la formation. Donc on a eu par exemple un week-end de NA2 avec notre autre guide Benjamin, qui nous a fait cette formation-là. On a également passé la cartographie et l'orientation. Après, sur les week-ends d'encadrement pur dédié à une pratique particulière, que ce soit les fondamentaux rochers ou la cascade de glace par exemple, on n'a pas beaucoup beaucoup le temps d'observer. L'idée, c'est quand même d'être efficace dans les manips, dans la gestion de la course et d'avancer. Je pense que Greg ne me contredira pas là-dessus. Donc cette contemplation, on la fait plutôt à l'approche, quoi. Ou à la descente. Mais globalement, pendant la course, on essaie vraiment d'être efficace justement pour gagner en efficacité sur les manips et sur la gestion de la course.
Comment, Grégoire, est-ce que vous répartissez là sur les 20 séances du Gavi c'est quoi le programme pour qu'on se rende compte un peu de peut-être ce que ça demande?
Alors, l'idée, c'est d'avoir le calque de la FFCAM et après de mettre notre touche, entre guillemets, personnelle du métier de guide dessus, on va dire. Donc, au sein de la FFCAM, comme on a pu comprendre, il y a des formations qui existent. Donc, quand on est au Gavi, en fait, on fait les formations, l'intérêt du Gavi. Pendant 2 ans, en gros, on va être sûr de faire un peu plein de formations de la FFCAM. Les dates sont déjà disponibles. Et on sait qu'on pendant 2 ans, en fait, on va avoir un cursus condensé qui va nous amener ensuite vers l'initiateur. Donc ça, c'est pour le comment ça c'est à peu près au niveau de la FFCAM. Après, nous, personnellement, en tout cas, moi, ce que j'essaye d'apporter en fait aux participants du Gavi là, bah, c'est d'arriver à faire de la montagne telle que moi, entre guillemets, je la considère. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mon point de vue, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire en rocher. Donc globalement, socialement, on considère que la montagne, c'est beaucoup de la neige et de la glace, mais en s'y intéressant de plus près, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de rochers. Donc en gros, la formation va être quand même très axée sur faire de la course d'arête. C'est là-dessus, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre et ça demande beaucoup d'expérience et c'est assez compliqué à maîtriser. Donc, il y a évidemment, on va apprendre à s'encorder sur un glacier, à lire un glacier. On a compris qu'il y avait une partie aussi neige et avalanche. On a fait un week-end aussi cascade de glace. Mais le gros de la formation, en tout cas, en termes de nombre de journées, ça va beaucoup être concentré, en fait, sur l'été et sur ces fameuses courses d'arête ou ce qu'on peut appeler rochers haute montagne. Voilà. On va aussi faire de la grande voie, que ce soit de la grande voie équipée ou non équipée. au CAF, ils ont des initiateurs, je crois, grande voie. C'est pas non plus de faire un initiateur grande voie, c'est un initiateur alpinisme. Donc, voilà, ça correspond à l'alpinisme tel qu'il est, quoi.
François, toi, tu es géomorphologue, c'est ça?
Je suis géologue.
Géologue, ok.
Ouais, c'est un petit débat, mais on fait globalement un métier assez similaire.
L'idée, c'est là de discuter un peu de... Bah, finalement, vous faites un initiateur en alpinisme. La montagne, elle change. Il y a de moins en moins de neige. Le changement climatique, c'est un changement qui est réel. Est-ce que vous pouvez me raconter, Grégoire et François, les changements que vous avez vus dans votre pratique ces dernières années, que ce soit toi, du coup, Grégoire, et là, c'est intéressant, à un niveau professionnel, et toi, François, à un niveau peut-être un peu plus amateur, pour comprendre peut-être quel est aussi l'enjeu de cette formation.
Donc, je suis assez sensible sur le sujet. Ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, c'est deux fois plus rapide en haute montagne que sur le reste de la planète. C'est bien de le rappeler. Et du coup, ce qu'on perçoit, on perçoit beaucoup de choses. Si on résume, c'est que ça va vite et que ça s'accélère de plus en plus. Socialement, on n'a pas l'impression qu'il se passe, entre guillemets, autant de choses, dans le sens où je pense que tant qu'il n'y a pas d'écroulement, d'éboulement massif de grosses montagnes, ça ne choque pas trop l'opinion. Donc, en fait, on a l'impression que ça se passe pas si mal. Il y a des écroulements, il y a des éboulements de plus en plus. Ça, le géomorphologue Ludovic Ravanel pourra vous en dire plus. Et ça, c'est complètement corrélé, en fait, avec la hausse des températures. Donc, juste pour rappeler, hein, si c'est deux fois plus rapide en haute montagne, c'est-à-dire que si on a un réchauffement à 2 degrés, en haute montagne, on prend 4 degrés de réchauffement. Et après, ce qu'on voit, en fait, c'est au niveau des glaciers, c'est clair, net. On voit vraiment les glaciers qui disparaissent. Évidemment, la mer de glace, ça, on le voit tous. Mais ce qu'on voit aussi, nous, c'est plus haut en altitude, à des altitudes type 3500, 3600 mètres, où là, en fait, on voit vraiment les glaciers qui, en un été, perdent à ces altitudes-là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, sur l'été dernier, qu'au Skyway, c'est-à-dire le pendant de l'aiguille du Midi côté italien, ils ont perdu à peu près 3 à 4 mètres d'épaisseur. Et du coup, ça fait que sur la haute montagne, ça fait toutes les approches deviennent un peu plus compliquées. Donc, il y a des voies qui commencent à être plus dures. Après, l'homme s'adapte, donc il met plus d'équipement, des choses comme ça. Et ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que s'il y a moins de glaciers aussi, ça va réchauffer a priori encore plus vite. Ça, c'est sur les glaciers. Et après, un dernier élément, en fait, on n'en parle pas trop, mais c'est ce qu'ils appellent la couverture glacio-nivale, où là, en fait, c'est la neige qui est présente ou la glace qui est présente dans les faces qui disparaît. Et en fait, ça, cette glace, cette neige qui disparaît, en fait, ça rend les courses potentiellement plus compliquées. Accessoirement, ça va aussi accélérer les phénomènes d'écroulement, d'éboulement. Donc ça, c'est un peu la synthèse. Et après, dans le métier de guide, du coup, clairement, en fait, ça commence à impacter fortement. Après, ce qu'il faut voir, hein, c'est c'est les conditions. Donc, si ça se trouve, il y a des étés qui vont être très secs et d'autres où ça sera des étés, entre guillemets, classiques. Du coup, on considère que la montagne en août n'est plus praticable. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Elle continue d'être praticable, mais il faut juste beaucoup plus s'adapter qu'auparavant.
Et est-ce qu'on continue à te demander les mêmes titres de course et du coup c'est toi qui dis non, c'est plus possible, ou est-ce que les clients que tu as ont bien conscience que c'est plus possible de faire la même chose?
De manière générale, les clients commencent à avoir vraiment conscience qu'il y a des choses qui bougent. Je prends l'exemple du Mont Blanc, en tout cas sur les demandes qu'on peut recevoir, c'est assez marrant, mais en fait on commence vraiment à avoir des demandes en juin. Les gens veulent faire le Mont Blanc en juin. Ils y connaissent souvent, des fois, ils connaissent quand même pas grand. Enfin, c'est des novices en haute montagne. Et ils demandent directement des dates en juin. Donc, clairement, en fait, même le novice s'adapte ou en tout cas demande des dates parce qu'il se dit qu'avec le réchauffement climatique, par la suite, ça va pas marcher, quoi. Nous, en tant que guide, je pense qu'on a un vrai travail de pédagogie à apporter et à expliquer en fait aux clients. et ne plus, entre guillemets, ne plus proposer une course en particulier, mais de dire on va faire de l'alpinisme et on s'adaptera aux conditions. C'est ce qu'on faisait avant, mais c'est encore plus vrai maintenant, je crois.
Et toi, François, comment est-ce que ta pratique elle a évolué à partir du moment où justement tu es arrivé sur le territoire là, de montagne? Parce que tu m'as dit au début de l'épisode que tu n'étais pas forcément de Haute-Savoie. Est-ce que tu as déjà vu des changements sur le temps court? Et comment est-ce que justement tu vois voilà, cette pratique vers l'initiateur pour la suite et ton encadrement futur en fait?
Eh bien, c'est une bonne question. En fait, donc moi, j'ai un regard qui est assez récent, en fait, hein, sur cet environnement-là, en tout cas, dans une pratique de montagne, pas sur une pratique professionnelle de géologie, disons. Donc, moi, je suis arrivé en 2020, je suis allé à la mer de glace, comme tout le monde. J'ai déjà été choqué en 2020 par ce à quoi elle ressemblait, et je suis d'autant plus choqué maintenant quand j'y retourne à travers les sorties que je fais, ou les courses que je vais faire, de voir à quel point elle a encore diminué, alors que c'était à une échelle, enfin, c'est une échelle de temps qui est absolument ridicule, hein. On a des pertes qui sont absolument colossales tous les étés, et ça, effectivement, comme le disait Greg, Ludovic Ravanel l'a vraiment bien documenté. Moi, ça va passer aussi par d'autres exemples. Ça va être me rendre compte que la première fois que je suis allé faire les Cosmiques au mois de mai, donc une course qui finit à 3008, je l'ai pas fait en t-shirt parce que je me disais je vais quand même pas être en t-shirt à 3800 mètres, mais globalement j'étais sans gants et en polaire quoi. Alors que je m'attendais vraiment à faire la course en doudoune. C'est aussi voir qu'on a des éboulements justement sur cette course des cosmiques qui arrive de plus en plus tôt et qui sont assez majeures. Ça va être voir que l'aiguille de Toul, début février, il y a 2 ans, était complètement sèche. C'est-à-dire que c'était un itinéraire, c'était de la marche sur un gros cairn en fait, et pas une face complètement enneigée comme c'était censé l'être au mois de février, c'est-à-dire une grande pente de neige. Ça va être aussi voir en se baladant sur la mer de glace aussi les effondrements dès le mois de mai qui arrivent à partir de 13 h quand le soleil chauffe. Hein. C'est plein d'exemples comme ça. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on nous a beaucoup dit avant, ce que j'entendais chez des initiateurs qui ont un peu plus d'expérience, qui sortent depuis un peu plus longtemps, et ce qu'on peut entendre dans les médias, etc., en fait, on se rend compte que depuis les quelques dernières années, il y a un changement de paradigme complet. Je pense qu'on le voit aussi en ski de rando, où on se posait peut-être un petit peu moins la question avant de savoir si ça allait passer ou pas, si ça allait être enneigé ou pas. On le voit très bien dans la cascade de glace. C'est une discipline que j'affectionne particulièrement. L'année dernière, j'ai eu la chance d'en faire pas mal. Et cette année, à part le week-end Gavi qu'on a fait ensemble, j'ai pas eu l'occasion d'aller en faire. Donc je pense qu'il y a un ajustement qui se fait. Alors, moi, c'est pas vraiment un ajustement, c'est juste que je m'habitue à ces conditions parce que c'est ce que je découvre en fait maintenant. J'ai l'impression que l'adaptation, elle se fait plutôt chez les personnes qui pratiquent depuis un petit peu plus longtemps et qui voient effectivement l'évolution de manière assez drastique. Ouais.
J'ai envie de vous poser une question un peu de l'intime de la montagne. Donc vous me répondrez si vous voulez ou pas. J'ai la sensation que sur nos territoires de montagne, il y a un peu deux groupes qui se font face, deux groupes humains qui sont les personnes qui disent que économiquement, en fait, on va pas se nourrir de l'air et que de toute façon, le tourisme et le ski, c'est une économie et il ne peut rien avoir d'autre. Et puis il y a d'autres gens qui rêvent, notamment des collectifs citoyens. J'ai envie de vous poser cette question de l'intime, de c'est quoi votre rêve pour la montagne de demain, avec les changements qui s'opèrent maintenant. Je ne sais pas si ma question est très compréhensible ou pas.
Je crois la comprendre. C'est pas vraiment de l'intime, ça va être plutôt, enfin, ça sera de l'intime et du professionnel. Quand on est amateur, on voit la montagne qui change et on trouve ça dommage, alarmant, etc. Quand on vit de ça, c'est un peu plus fort. Personnellement, je trouve ça encore beaucoup plus fort. c'est de voir en fait le, si on peut dire, c'est notre outil de travail qui se dégrade. C'est ce que je dis en tout cas un peu aux clients que j'ai, etc. C'est, on a notre outil de travail qui se dégrade et on est dans les premiers métiers à être touché directement par le réchauffement climatique. Je dis les premiers parce que je pense que ça va suivre derrière et en fait en nombre. Donc de voir en fait son métier qui se fissure, ça fait mal au cœur. En hiver, de voir qu'il n'y a pas de neige, de voir qu'il fait 15 degrés à 2500 mètres ou des choses comme ça, enfin, moi ça me brûle un peu le cerveau par moment. Après, ce que je pense, c'est que on fait de la montagne pour la découverte d'un univers différent, pour le dépassement de soi et l'aventure. Je pense que quoi qu'il arrive, la montagne, si, même s'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus de neige, on arrivera à faire des choses encore. Je garde espoir sur mon métier, malgré le fait que par moment, en fait, ça fait très mal de voir cette montagne qui change et qui sera différente par tous les plaisirs qu'elle peut nous offrir aujourd'hui, de se dire que ça sera différent par la suite et qu'ils seront peut-être beaucoup moins puissants, ces plaisirs. Ça fait un peu mal, mais néanmoins, je pense que l'âme même du montagnard, on pourra quand même continuer à la combler, quoi.
François, toi, tu rêves de quoi pour la montagne de demain? De quoi rêve le géologue et le pratiquant de la montagne du Gavi?
Ben le géologue, il rêve évidemment à ce que la montagne et tout le milieu naturel, en fait, hein, soit le plus préservé possible. Y a des choses qui m'interpellent quand même. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans des pratiques touristiques qui sont, enfin, moi, qui me choque un petit peu de vouloir profiter à tout prix de la montagne tout en consommant un maximum et en n'ayant pas grand chose à faire de sa préservation. Enfin, c'est un petit peu l'ineptie d'aller voir, de faire des grandes croisières pour aller voir la banquise qu'ils font, quoi. C'est un peu de cet ordre-là. Donc ça, c'est le regard de quelqu'un qui est vraiment amoureux de la nature de par sa formation et son travail. Évidemment, c'est en même temps hyper hypocrite de ma part, je le sens, parce que j'en suis un de touriste qui vient faire des choses en montagne, qui vient aussi, qui prend plaisir aussi à aller à Chamonix, à aller consommer de la montagne comme beaucoup. Après, j'essaye dans ma pratique de le faire de la manière la plus intelligente possible, avec sans aller à fond dans le système consumériste de la montagne. J'aimerais qu'on puisse accéder plus facilement, qu'il y ait plus de solutions de transport en commun pour aller en montagne, que ce soit en tout cas plus facile, peut-être moins coûteux, que ce soit une solution qui soit vraiment intéressante, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Et en particulier pour des publics qui sont un petit peu défavorisés et qui mériteraient de pouvoir y accéder en même temps que nous. Parce que là, on discute quand même de problèmes de gens assez aisés. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres éléments à ajouter, si ce n'est que si peut-être quand j'emmène des groupes ou des gens que j'initie ou que j'encadre à la montagne, j'essaie quand même de les sensibiliser à ce respect du milieu, à cette fragilité, et à ces changements que malgré la petite échelle d'observation que j'ai, je peux déjà observer. Ouais.
J'ai une dernière question. Effectivement, tu as parlé de peut-être du fait que les gens qui vont en montagne et qui pratiquent les sports de montagne sont des gens aisés. La question que j'ai, c'est la question du prix de ce Gavi. Ça coûte combien par an et est-ce que du coup, c'est accessible à tout le monde, en sachant que votre public au Gavi, les participants, c'est quand même des gens qui pratiquent déjà la montagne, donc c'est-à-dire qui ont déjà du matériel. Mais qu'est-ce que ça coûte justement à ces participants et ces participantes?
Alors, donc pour être 100% transparent, de toute façon c'est public, hein, l'année du Gavi, c'est un coût par participant de 550 euros en encadrement pur. C'est-à-dire que ça, c'est nos frais d'inscription, en fait. Hein. En plus, on a tous les frais des week-ends, donc les déplacements, les logements, enfin les nuitées en refuge, la demi-pension, les remontées mécaniques si on en prend, et puis aussi le défraiement de nos guides. Donc effectivement, c'est un coût qui est très important. À ça, il faut quand même rajouter du matériel parce qu'on n'a pas forcément tout ce qui est nécessaire, pas tous en tout cas au moment venu, ou alors le matériel s'use, ou il y a aussi de la perte de matériel. Ça arrive de laisser tomber un coinceur ou une dégaine, ou voilà, de perdre une broche ou d'abîmer du matériel. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc effectivement, c'est quand même assez coûteux. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les clubs alpins dans lesquels on va encadrer après, souvent propose un remboursement des formations pour devenir initiateur. En général, ce qui est pratiqué, c'est un remboursement d'un tiers du coût de la formation par an pendant 3 ans, sous réserve que la personne encadre suffisamment dans le club. Donc ça, je pense que c'est une règle qui évolue au sein de chaque club, mais voilà, en général, c'est la politique qui est appliquée, justement parce que les clubs savent très bien qu'ils ont besoin des encadrants pour faire vivre leur club, et ils savent que cette formation, c'est un budget. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc nous, dans le Gavi, mais en fait, n'importe quel encadrant au club alpin, pour se former, se faire diplômer, être breveté, il va falloir qu'il paye son matériel, sa pratique, son temps d'encadrement, ses stages de formation. Donc ça, c'est un vrai coût, hein. Et en plus, il prend sur son temps personnel. Donc c'est un vrai investissement à la fois financier et personnel. Voilà. C'est aussi pour ça que dans le cadre du Gavi, on essaye d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. On remercie d'ailleurs Blue Ice et Mie, bah, qui nous fournissent ce support dans l'achat du matériel. Voilà.
J'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a des subventions publiques peut-être pour aider votre groupe?
Des subventions publiques, pas à ma connaissance. En revanche, on a la Fédé qui s'engage aussi financièrement à nous soutenir, voilà, pour nous alléger du mieux qu'elle peut financièrement, pour qu'on, voilà, que cette formation justement ne soit pas réservée à une population très aisée et que ça puisse être accessible à tout le monde. Et en fait, je pense qu'au sein de la Fédé, il y a une vraie volonté d'éviter que les personnes avec les plus hauts revenus qui soient en mesure de devenir encadrants. C'est vraiment pas l'objectif, quoi. Et de plus en plus, on essaye d'être orienté vers les publics les plus éloignés de la montagne, justement parce qu'on sait que c'est un milieu qui a une réputation d'être assez favorisé, ce qui est vrai. Et voilà, on essaye de prendre un peu le contre-pied de ça au niveau de la Fédé.
Quand on s'est dit tout ça et quand on a parlé justement du coup, on peut se poser la question des profils des différents participants et participantes. Qui sont-ils et qui sont-elles?
Et bah, pour en introduire, après je vais laisser parler François sur les différents profils, il sera plus à même de dire quelque chose. Mais nous, en tout cas, dans la sélection des profils, cette année, en tout cas, pour cette nouvelle sélection du Gavi, on avait un peu mis l'accent sur donc l'implication dans les clubs. Les 2 premières éditions, en fait, c'était une réussite. Je pense, dans le sens où on avait amené les gens à l'autonomie en montagne, et c'est déjà un aspect très important du Gavi. Mais du coup, sur les initiateurs, par contre, ça marchait pas forcément tout le temps bien. Et donc cette année, on a essayé de prendre des profils qui étaient déjà bien impliqués dans les clubs, aussi pour, entre guillemets, remercier ces gens qui s'investissent dans les clubs et qui passent entre guillemets, prioritaire pour cette sélection du Gavi.
J'en ai profité pour faire un petit bilan, en tout cas des profils professionnels des personnes dans le Gavi cette année, dans cette promotion. Sachant que vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux aussi. On a donc une traductrice, on a une ingénieure qualité, un architecte, un artisan, un dessinateur projeteur. Et puis donc moi, comme vous l'avez compris, un géologue donc, qui a fait un peu de recherche. Enfin voilà, donc on a des profils socioprofessionnels assez variés. Et en termes d'investissement dans les clubs, c'est pareil, c'est assez varié, hein. On a des profils de gens qui vont être encadrants en course à pied, on va avoir des gens qui vont être investis au niveau de l'escalade, donc des responsables de sections dans leur club, des membres de comités directeurs. Moi, personnellement, je suis vice-président et on a aussi le président du CAF au Chablais. On a des gens qui vont être investis dans des groupes de ski de randonnée, dans des groupes d'alpinisme déjà. Voilà, donc on a un petit peu tout le panel possible de gens qu'on retrouve dans les clubs alpins de la Haute-Savoie, à la fois en termes de pratique et d'investissement, et à la fois en termes socio-professionnels.
Et si je pouvais rajouter un mot, en fait, c'est à tous les auditeurs, si bah, du coup le Gavi, en fait, ça va peut-être en intéresser certains. Et si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, le comité 74 propose d'autres groupes qui sont plus cette fois-ci sur une année pour se former en fait à la montagne aussi. Et c'est une autre façon de mettre le pied à l'étrier pour se former en montagne. Et je sais que les demandes de ce point de vue-là sont nombreuses. Et en tout cas, je pense que si le comité en fait reçoit de la demande, en tout cas, ça permettra aussi de voir le besoin qui existe et de proposer plus de choses.
Faisant partie du comité départemental, effectivement, on peut voir ces groupes-là émerger, et ces groupes qui ont commencé par des groupes de formation en alpinisme, ils s'étendent aussi maintenant à d'autres disciplines, en ski de randonnée, en cascade de glace cette année. Voilà, donc plus il y a de demandes, plus il y a de groupes créés. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir vous former. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose sur un événement qui forme à l'alpinisme.
Bien sûr.
Je t'en prie. Donc, on est aussi plusieurs dans le Gavi à être impliqués dans l'organisation d'un événement qui vise à faire découvrir et à faire progresser en alpinisme. C'est un événement qui a lieu à Chamonix tous les ans au mois de juin. Cette année, ce sera du 22 au 23 ou du 22 au 24 en fonction des cursus sélectionnés. Ça s'appelle le Grand Parcours Alpinisme Chamonix-Mont-Blanc. Donc, c'est un événement qui est organisé par le comité départemental de la FFCAM. C'est un événement tout public qui vise vraiment à présenter ce que c'est la pratique de l'alpinisme. Donc, on peut être 100% débutant à quelqu'un déjà plus expérimenté, mais qui ne se sent pas encore tout à fait à l'aise pour sortir en autonomie. Et cette année, en fait, on a un petit changement. Ça va être très orienté autour des refuges et des temps qu'on va pouvoir passer autour des refuges. C'est un nouveau format et c'est un événement qui s'appuie essentiellement sur les encadrants bénévoles de la FFCAM, donc avec des encadrants alpinisme qui viennent d'un petit peu partout, qui sont des gens qui sont passés par les formations telles que celles qu'on fait à travers le Gavi et qui voilà, sont là pour donner du temps à des gens qui voudraient découvrir cette pratique. Donc c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur au niveau du département. Et
ça sera en juin.
Et ce sera en juin. Donc on vous invite à suivre tout ça aussi.
Ouais, on en parlera sur le camp de base, au moins sur l'Instagram, et peut-être même qu'on aura le plaisir de te revoir, François, dans ce cadre-là.
Avec plaisir.
Super. Oui, c'est extrêmement important. Il faut bien le rappeler hein, par rapport à ce que disait Grégoire. Il faut se former. En fait, il ne faut pas aller en montagne la fleur au fusil. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument se former. Je pense que Grégoire, François, vous pourrez aller que dans mon sens.
Si je peux rajouter, si on veut éviter d'interdire, allez vous former.
Et exactement.
Il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui interdisent pour nous. Quoi.
Exactement. C'est beaucoup trop important et ça sauve des vies malgré tout, même si la montagne fait quand même garde la main sur ce qu'elle fait de nous. Il y a quand même des risques qu'on peut éviter.
Oui.
C'était le petit mot. J'ai l'impression d'avoir 90 ans, mais je crois que c'est important de leur dire. Je pense que c'est hyper, hyper important.
C'est essentiel. Et venez vous former dans les clubs alpins.
Ouais.
Ouais, je prêche pour la paroisse.
Et partout ailleurs, hein. Par ailleurs, il y a plein d'événements. Il y a plein d'événements qui sont hyper chouettes pour se former. Et en plus, on rencontre des gens et c'est trop cool.
Ouais. Ne cédez pas aux sirènes du marketing qui veut tout vous faire acheter. Prenez un peu d'argent pour la mettre dans la formation.
pour aller dans ce sens-là, j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, il y a une explosion de ces groupes de formation et je trouve que c'est un point qui est hyper positif, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, si c'est un effet de loupe que j'ai depuis que je suis dans le système ou si c'est une réalité, mais j'ai l'impression que la demande de formation, elle explose en fait. C'est
oui,
très chouette.
C'est clair. Carrément. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr et certain. Ouais. Ça, je le vois et il y a du boulot derrière. Il faut que ça suive derrière. Par contre, c'est le problème. Ouais.
Ça veut dire quoi? Il faut que ça suive derrière?
Faut que ça suive, c'est-à-dire que les formations, là, on va rentrer sur quelque chose qui est sujet à débat, mais qui c'est des formations, entre guillemets, qui soient de qualité et reconnues. Parce que si on peut mettre des acteurs privés, mais ça peut faire un peu être la catastrophe. Et après, il peut y avoir des formations aussi pas chères, mais qui sont un peu rocambolesques.
Et superficielles.
Et superficielles. Et en fait, on peut vite croire qu'on sait pas mal de choses. Je prends l'exemple de clients, quand je leur demande de faire un test de DVA, ils me disent qu'ils le connaissent. Après, je leur explique. Après, ils font le test en grandeur réelle en moins de 5 minutes. Et là, à 99% du temps, la réaction, c'est « Ah ouais, en fait, c'est vraiment compliqué. » Et donc, ils pensaient être formés. Et en fait, ils découvrent qu'en fait, ils étaient loin du compte. Donc, ouais. C'est juste de ne pas se voiler la face sur la qualité de la formation.
Carrément. Et on se forme toutes les années. Il faut remettre à jour tout ce qu'on sait. C'est hyper important. Oui. Parce que c'est quoi? C'est un quart d'heure qu'on a pour sortir. C'est même moins.
Pour c'est sortir un quart d'heure entre le temps où la personne est ensevelie et le temps et le temps où on lui dégage les voies aériennes. Donc c'est pas juste la trouver à la sonde, c'est aussi pelleter et la sortir.
Autant vous dire que ça va hyper vite et surtout avec le stress.
Exactement.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir été là.
Merci
ce
à
soir.
Toi, merci beaucoup.
Merci Émilie, merci au Canada.
C'était trop chouette qu'on soit arrivé à trouver une date et j'en profite pour remercier de vive voix tous les participants et les participantes du Gavi qui suivent le podcast de manière hyper assidue et qui sont toujours là sur Instagram pour m'envoyer des petits cœurs. C'est très choupi. Merci beaucoup à vous. C'est chouette de se sentir soutenu aussi. Donc voilà, merci.
Mais merci pour le boulot que tu fais, c'est top.
Et ben, merci à vous.
Ouais, continue. Bravo.
Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.